sang, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, que vous soyez sur Radio Primitive, l'écho des Garrigues à Montpellier ou Canal Sud à Toulouse. Vous êtes à l'écoute de l'Égrégore. L'Égrégore, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, dans la majeure partie de notre émission, sera consacrée à une expérience assez originale qui se déroule depuis bientôt un an et demi à Paris, plus précisément dans le 20e arrondissement, et qui est une expérience de squat et de cantine, c'est-à-dire de restauration. Enfin bon, on va rentrer dans le détail tout de suite, et pour ça justement, j'ai un des camarades qui participe à ce projet, qui est dans l'animation de ce lieu. Est-ce que tu es là, mon cher camarade?
Ouais, je suis là.
Est-ce que tu Allez. M'entends un peu? Ouais, voilà.
Je t'entends un peu.
Le prétexte de cette émission, c'est que dimanche, on a eu le plaisir de manifester ensemble à Paris, une chouette manif sous le soleil, en t-shirt et lunettes de soleil, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, avec pas de drapeau, pas de propagande politique malgré l'échéance des municipales, et des gens contents, combatifs et plutôt heureux d'être là. Qu'est-ce que tu as, partages le même sentiment que moi sur cette manif?
Ouais, je pense que de manière générale, les gens étaient assez contents. Je pense que le soleil a beaucoup joué.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y avait aussi le plaisir de se balader dans les rues du 20e et d'occuper l'espace qui est là où on vit, quoi. Enfin, là où vous vivez pour la plupart des gens qui sont dans le 20e arrondissement. Donc, un rapport à l'espace public qui est pas banal, quoi. On avait vraiment l'impression d'être dans le quartier et d'être le quartier, quoi.
Surtout qu'on est passé par des petits chemins plus sympathiques que les grands boulevards qu'on peut habituellement prendre.
Alors, revenons donc à ce qui motivait ce défilé, cette manifestation. C'était donc la protestation contre l'expulsion de cette fameuse cantine des Pyrénées, qui est donc un resto, un bar, qui est squatté depuis maintenant 14 mois. C'est ça?
Fin janvier 2013.
Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Et ouais, c'est ça, ouais, ça fait 13 mois, ouais, c'est un peu plus d'un an. Et qui donc, maintenant, après avoir épuisé tous les recours légaux, est potentiellement expulsable, quoi. Il faudrait peut-être, pour expliquer ce lieu-là, cette histoire, essayer de revenir un peu avant et expliquer la constitution du projet qui a abouti à cette occupation. Est-ce que tu veux bien revenir là-dessus?
Ouais, je veux bien. Alors moi, j'étais pas tout à fait à l'origine.
Ouais.
J'ai rejoint un petit groupe qui s'était constitué autour d'un texte d'appel à la création d'une de ce que c'est devenu, quoi, une sorte de cantine. Et c'était il y a un certain temps, quoi. C'était il y a...
il y a au moins deux ans, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais, non, c'était il y a plus que deux ans, quoi. Ouais, c'était peut-être...
Trois ans, ouais.
2011.
Pour avoir été aux premières discussions, effectivement, c'était 2011, ouais. C'est ça, ouais.
Et bon, ça a pris son temps, parce qu'on avait tous d'autres occupations. On avait aussi un souci de lieu, parce qu'à la base, on comptait le louer. Mm-hmm. Et on a un peu épuisé tout ce qui était possible en essayant de monter un dossier pour essayer d'avoir un bail à prix un peu moins cher, quoi. Enfin, par des bailleurs sociaux ou des trucs comme ça, mais on a plutôt eu des réponses négatives ou alors des gens qui nous disaient non, le tarif n'est pas à négocier. Et puis, c'était des tarifs énormes, quoi. Enfin, qu'on pouvait pas se permettre.
Et toi, à ce moment-là, tu étais squatteur dans le 20e,
c'est ça.
Alors, moi, ce que je me rappelle par rapport aussi aux premières discussions, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui avaient ou qui étaient, qui avaient été ou qui étaient en squat.
Ouais.
Et qui ressentaient le besoin de partager leurs expériences, mais aussi de pouvoir que leur pratique de l'occupation et leur pratique de squat, elles se publicisent et elles sortent du cadre trop restreint de ce qu'on pourrait appeler un petit milieu et qu'elles apparaissent comme une pratique politique à visage découvert, quoi, public. Il y avait aussi ça.
Il y avait de ça.
Ouais. Et donc tu t'es retrouvé autour de ce texte, ça a mis du temps, et puis il y a eu une autre expérience de squat dans le même quartier, dans la même rue même, c'est la fameuse expérience du 260.
Ouais, alors c'est pas exactement lié, mais effectivement ça, bah, pour les gens qui étaient sur le 20e arrondissement, il y a pas mal de personnes qui ont participé aux deux expériences, mais il n'y avait pas de lien direct en fait, si tu veux. Il n'y avait pas de... Ça n'a pas été le préalable, ni la suite, voilà. C'était,
tu nous rappelles ce que c'était le 260 rue des Pyrénées?
Ouais, le 260 rue des Pyrénées, en fait, c'était d'une espèce d'assemblée qui réunissait plusieurs collectifs de mal logés ou de collectifs qui luttaient contre la restructuration urbaine sur Paris et en banlieue. Du coup, il y avait un peu banlieue sud-est, est, nord et Paris. Et à un moment donné, il y a eu un collectif qui avait essayé d'occuper un bâtiment sur Saint-Denis. Il y a eu une grosse expulsion, beaucoup de gens qui se retrouvaient en galère et assez rapidement, il y a eu une ouverture d'un très grand lieu où il y avait une soixantaine de personnes qui habitaient là. Et on s'est fait mettre un peu la misère par la mairie.
faut le dire, ça a été une bataille acharnée, rien que pour avoir la flotte, qui a été recoupée, qui a été remise, etc., etc. Enfin, vraiment, la mairie a pourri le truc. Ils pouvaient pas accepter qu'il y ait justement... parce que ça représentait vraiment beaucoup de monde. Hein. Il y avait au moins une quarantaine de personnes qui vivaient là.
Ouais, même plus.
Ouais. Avec, comme tu l'as dit, en plus, un espace qui était réservé à l'auto-organisation et à la rencontre et la mise en contact des gens qui voulaient se bagarrer, quoi. Et
oui, donc... parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient, qui étaient intéressés, qui voulaient venir dans le lieu. Bon, il n'y avait plus de place, mais qui voulaient faire d'autres choses, qui voulaient ouvrir d'autres trucs. C'est vrai que ça faisait un peu boule de neige et c'était pas gérable, quoi, par la mairie.
Et donc finalement on en arrive à cette cantine, à ce resto là qui donc.
Ouais, enfin pas finalement, mais ça s'est fait un peu en parallèle, mais effectivement les gens qui participaient aux 260 n'avaient pas vraiment le temps de s'occuper de la cantine, enfin du projet cantine qui n'existait pas. Et finalement début 2013, il y avait l'expérience 260 qui avait pas. Enfin, qui était plutôt un échec. Enfin,
c'est pas un échec.
Mais en tout cas, ça a un peu fait éclater tout le monde. Et puis, il y a quand même quelques personnes du 260 qui ont rebondi là-dessus avec d'autres gens, avec d'autres personnes qui n'y ont pas participé. Hein.
Et donc, il y a cette ouverture du bar, hein, de cette prise de bar. Ouais. Et alors, première question, pourquoi axer sur la bouffe et sur moi, je connais la réponse, hein, mais je pose la question. Pourquoi axer sur la bouffe et sur la restauration?
Mais écoute, peut-être parce que c'est un des besoins premiers, la bouffe.
Ouais.
Et qu'on s'est dit que nous-mêmes, on aimerait bien avoir un endroit où manger bien à pas très cher. Et que ça pouvait être une bonne base pour ensuite développer d'autres aspects.
Je
sais pas si t'avais la même réponse que moi.
Si, en gros, c'était déjà une première prise de contact. Déjà, ça répondait à un besoin primaire.
Ouais.
Parce que faire un repas correct par jour, pour certains et certaines, c'est un problème. C'est une angoisse. Il y a des gens qui viennent, moi j'y suis pas en permanence dans ce restaurant, mais il y a des gens qui viennent et qui savent que ils peuvent bouffer peinard, quoi, sans avoir ni l'angoisse de se dépêcher ou de d'avoir à vous pied, ni la honte d'avoir la charité, quoi, parce qu'on n'est pas au Resto du Cœur, quoi.
Ouais.
Et en plus, on fait ça dans un endroit qui est occupé sans droit ni titre, donc symboliquement c'est fort. Et c'est surtout aussi un moyen, justement, par cette pratique d'occuper sans droit ni titre, de commencer à avancer des pratiques dans une certaine convivialité, quoi. De pouvoir accrocher les gens et discuter avec eux, quoi. Parce que dans ce lieu, il n'y a pas que de la bouffe aussi, il y a d'autres choses. Il y a quoi comme autre activité?
Exactement ça. Juste un point sur la bouffe, quand même, c'est pour préciser. La bouffe, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, et tous les midis. Du coup, ça prend une certaine partie de la journée. Ça laisse aussi pas mal de temps pour d'autres activités, en particulier l'après-midi, le soir et le week-end.
Qui sont ces activités?
C'est un truc qui est quotidien, quoi.
Ouais. C'est une manière de répéter les rencontres et les rendez-vous,
voilà,
en tous les cas, de pouvoir créer un lien avec les habitants, avec les gens du 20e, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité?
Alors, il y a des cours de français. Cours de français, il y a une permanence sans papier, une permanence retraitée.
Tu peux. Ouais, c'est vrai.
C'est assez intéressant. Parce que c'est un projet auquel on n'aurait jamais trop pensé, quoi. Enfin, on a un peu manifesté pendant le mouvement des retraites, mais ça nous paraissait quand même bien loin.
C'est vrai.
Pour beaucoup.
C'était même de l'ordre du mirage.
Mais en tout cas, il y a un certain nombre de retraités qui fréquentent le lieu. Qui sont retraités, mais bien pêchus. Et voilà, il y a une permanence retraitée également le samedi. Le samedi, il y a aussi toujours le samedi après-midi, des la distribution de la récup de Rungis qu'on fait avec le squad du Transfo à Bagnolet. Dimanche, il y a un collectif de mal logés qui se réunit, un ciné-club, projection de cinéma le dimanche soir, et peut-être j'oublie d'autres trucs.
Non, je crois que tu as fait le tour. Ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, il y a des choses après le repas,
voilà,
qui fait que, en plus... en essayant au maximum de pousser à l'auto-organisation pour pas justement se transformer en un service alternatif qui comblerait les manques de la municipalité, de l'arrondissement et de Paris en général, et essayer de pousser au maximum à l'auto-organisation, quoi. Ouais, donc effectivement c'est ça. Et alors finalement quel bilan tu fais, toi, après
ouais, tu veux déjà passer au bilan?
Ah non, pas au bide, pas où tu veux. non, mais ce que je veux dire, est-ce que ça a du succès?
La cantine a énormément de succès. Enfin,
ouais, c'est incroyable. Ouais.
On est aux limites de ce qu'on peut accueillir. Je sais pas. En général, on fait. Il y a 60 à 70 personnes qui passent tous les jours. Sur 2 heures, quoi, c'est pas rien.
Non.
Et puis les autres activités, on va dire, ont aussi leur succès, quoi. Enfin, ont aussi. Après, c'est une question de. Ça prend du temps, tout ça, et puis ça nécessite aussi de faire connaître, parce qu'il y a le bouche à oreille, et puis il y a aussi le fait d'aller un peu montrer ce qui se fait à la cantine un peu à l'extérieur. Et bon, ça dépend du temps qu'on a à ça, mais c'est vrai que bon, toutes les cours de français sont, il y a pas mal de monde qui vient à chaque fois, les autres permanences aussi. Enfin, ça marche plutôt bien. Ouais.
Ouais.
Et surtout, c'est des publics très variés, quoi. C'est, enfin, peut-être le terme de public n'est pas le bon, mais en tout cas, c'est des gens vraiment très variés, quoi. Au niveau social, mais surtout culturel aussi, tu vois.
Ah bah, pour donner un exemple précis aux auditeurs, y a un retraité de la fonction publique qui va croiser un sans-papier dans la même journée, quoi, qui va manger à la même table, quoi. Donc c'est vraiment, comme tu dis, des gens qui vivent dans le même arrondissement, mais qui s'il n'y avait pas ce lieu-là, se croiseraient peut-être pas, quoi. En tous les cas, on peut largement émettre cette hypothèse-là, quoi. Et alors, du coup, quelle a été l'attitude et la réaction du pouvoir, hein? Parce que...
Écoute, au bout d'un mois, on a eu un peu toutes les vérifications possibles en matière de restauration, c'est-à-dire qu'on a eu l'hygiène, les douanes, l'URSSAF, ils ont essayé de tout nous coller dessus, travail dissimulé, ouverture illégale d'un débit de boisson, tout ça.
On est en sécurité en France, c'est bien. Ça sort vraiment, c'est bien.
Avec des grosses descentes, enfin on a eu une grosse descente, il y avait 30 flics en civil qui ont déboulé. C'était assez impressionnant. Et puis finalement, je sais pas, ils ont dû penser qu'il n'y avait pas grand-chose à tirer de ce côté-là. Et il n'y a pas eu de poursuite. Ensuite, on a eu plus aucune nouvelle de qui que ce soit pendant plutôt longtemps, plutôt un bon moment. Et parallèlement, on a eu le procès, parce que le lieu appartient à une société immobilière. On a eu un procès au tribunal civil qui a eu quelques rebondissements. Et pour finalement être expulsable en septembre 2013, il y avait le jugement définitif en septembre 2013. Et on a fait une petite manif... Enfin, pas une manif, un rassemblement devant la mairie du 20e. En octobre, on était 150, 200, un truc comme ça. Peut-être plutôt 150 que 200. Mais... et on a envoyé juste un petit mail à la mairie en disant, voilà, on a fait un rassemblement et tout. Peut-être que maintenant, il faudrait donner quelques nouvelles. Et puis une semaine après, on a eu deux types de la mairie qui sont arrivés dans la cantine. Oui, la maire veut vous rencontrer tout de suite. Voilà, on a eu ça. Et c'est voilà, ça s'est fait un an après. Bon, la maire nous a dit que elle soutenait la cantine, qu'elle trouvait ça génial. Sachant qu'il y a un an, elle nous faisait la guerre.
Ouais.
Une espèce de petit changement qui s'est produit. et on a c'est totalement assuré, on a été protégé de l'expulsion par l'imminence des élections municipales.
C'est clair, ça c'est évident, ouais. Et comment t'interprètes à la fois ce retournement de veste, ou alors si on voulait être plus objectif, ce changement d'attitude cette relative tranquillité que vous avez pour le moment?
Eh ben,
il y a la question des élections municipales, ça c'est
ouais,
évident.
Je pense que c'est totalement lié. En tout cas, la cantine, c'est un lieu qui est bien connu dans tout le quartier. tout le monde la connaît, enfin, vraiment. Même, si, même les gens qui y sont pas allés connaissent l'existence de la cantine. On a eu un certain nombre de personnes qui se sont dites solidaires de la cantine. Et en fait, l'expulsion de la cantine à quelques mois des élections, c'est un souci que j'imagine ils n'ont pas voulu se rajouter.
Ouais, ça ferait tâche, ouais. Stipulons que, évidemment, dans ce 20e arrondissement, c'est la gauche. Hein.
C'est la gauche, ouais.
C'est le PS, et plus particulièrement, alors la députée, c'était, parce que maintenant c'est sa suppléante qui siège, mais c'était Paul Angevin.
Ouais.
Et les conseillers de Paris, c'est Assouline, etc., etc. Et la maire, c'est Calandra. Voilà.
C'est ça.
Vous savez tout. Mais justement, parlons-en de ce quartier et parlons-en aussi de pourquoi les gens se reconnaissent dans la démarche et pourquoi cette cantine, au-delà du simple fait de bouffer, elle a aussi un succès et un intérêt politique. Donc on est dans le 20e arrondissement. Le 20e arrondissement, c'est quoi pour toi?
Tu veux des chiffres,
Oui, alors moi j'ai quelques chiffres. Bon, bah, le 20e arrondissement, on va donner d'autres termes pour les auditeurs qui sont pas forcément coutumiers de notre parisianisme exacerbé. Le 20e arrondissement, c'est les Buttes, Belleville, Ménilmontant, etc., la rue Piat. C'est donc un endroit historiquement populaire. Et historiquement pauvre aussi. Hein.
Ouais.
C'est un des arrondissements qui a le plus grossi au cours de ces 15 dernières années, puisque, comme on le sait, et plus particulièrement à Paris, il est impossible de se loger, ça devient de plus en plus cher, et l'entièreté de ceux qui ont pu rester à l'intérieur de Paris intramuros sont vraiment remontés sur le nord-est. Et plus particulièrement dans le 18, 19, 20, quoi. Mais s'il ne dépasse pas la barrière du périphérique, puisque désormais Pantin, Aubervilliers, etc., a tendance à se boboiser, là où il y a des petites maisons, les pauvres habitent dans Paris intramuros, mais dans des conditions de merde.
Ouais. Après, plus exactement, le 20e, il commence à un petit peu se repeupler. Il y a eu une grosse... une grosse baisse de la population, en fait, à la suite des années 50-60, où il y a eu des grosses restructurations dans le quartier. Et par la suite encore, c'est depuis assez récemment que la population augmente.
Moi, j'avais des chiffres sur 10 ans, pardon, tu as raison.
Ouais, mais tu regardes les chiffres, il y a quelques dizaines d'années, on était plutôt autour de 250 000, 300 000 personnes, on en est à 200 000 aujourd'hui.
C'est ça. Ça a toujours été, mais ça a toujours été un arrondissement qui a été populeux dans le sens où il y avait beaucoup de population, quoi.
Ben oui. Ben oui.
Et donc.
Non, mais c'est un ancien quartier ouvrier.
Ça.
Avec des grosses usines. Actuellement, il n'y a plus rien. Enfin, il y a la plus grosse concentration de travailleurs. Je pense que c'est l'hôpital Tenon.
Ouais.
Et voilà, actuellement, c'est plutôt des petites entreprises, quoi, qui sont installées là. Mais ça reste, dans certains coins, un endroit où il y a encore une population qui n'a pas forcément les moyens d'aller ailleurs.
Alors, il y a certains espaces, d'ailleurs, où il y a encore des loyers de 48, hein,
ouais.
Sur loi de 48, notamment du côté de la rue des Vignoles, qui, donc, sont des loyers dont sont des logements dont le loyer est bloqué et régulé par la loi. Et
ouais.
On peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a effectivement la possibilité de se loger pour... j'allais dire pas cher, c'est pas vrai, c'est cher, c'est très cher.
Non,
mais pour Paris, c'est moins cher. Mais, répétons-le, dans des conditions dégueulasses, quoi. Dans des conditions d'insalubrité, dans des conditions de relations avec le propriétaire qui sont très hard, du genre, du jour au lendemain, on peut se retrouver dehors, quoi. Enfin, une espèce de... de sous-marché locatif sur lequel évidemment les autorités ferment les yeux puisque bah, sinon il n'y a pas de logement quoi.
Ouais, ils ferment les yeux ou ils essayent de nettoyer mais pour dégager les gens qui sont là. C'est Calandra, la mare du 20e ne s'en cache pas quoi. Non, dégager une certaine population et en faire venir une autre.
Et du coup, en conséquence, l'auto-organisation sur la question du logement, elle résonne de manière très très forte, quoi.
Ouais, même si actuellement c'est plutôt assez difficile. Enfin, il n'y a pas vraiment de dynamique autour de ça. Mais elle a résonné assez fort. Enfin, c'est dans le 20e où il y a eu les grandes luttes des années 90, l'occupation de la place de la Réunion, la trahison du Dahl, enfin tout ça.
Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne se souviendraient pas de quoi on parle, dans les années 80, il y a eu la constitution. Alors, il faut encore revenir 10 ans en arrière, mais à partir de 77-78, dans le 20e, va y avoir des ouvertures de squats. Les premiers squats dans lesquels vont se développer le rock alternatif, la culture et ce qu'on va appeler l'autonomie, avec, je sais pas, on va même pas mettre des guillemets, on va mettre des rochers autour, parce qu'on sait pas trop quoi dire, va aboutir à partir de novembre 86 à la fondation d'un collectif qui s'appelle le Comité des Mal Logés, qui va ouvrir des immeubles entiers d'appartements, comme en janvier 89, aux rues de la Fontaine-au-Roi, en installant des permanences, etc., etc., et qui va donc aboutir, après les expulsions, à un campement sur la place de la Réunion, qui va durer quand même 4 mois, où les gens vont habiter donc dehors, avec rien pendant 4 mois et qui à la fin donc à l'initiative du PS de SOS Racisme mais aussi des futurs composantes de ce qui donnera plus tard la gauche plurielle, Jean-Baptiste Hérault quitte le comité des mal logés avec un de ses potes qui s'appelle Amara. Ça va être Jean-Luc ou Jean-Claude Amara, et va fonder l'association droit au logement, voilà, pour traiter avec les autorités qui s'étaient en train de se retrouver avec une question de l'auto-organisation et de l'organisation de la question du logement qui était en train de pousser et qui n'arrivaient pas du tout à récupérer quoi. Enfin, ouais. Si, la preuve, ils ont réussi, quoi. Et donc, ça, je pense que c'est quand même aussi dans la mémoire des politiques, des dirigeants politiques. C'est pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais.
Ouais, non, je pense que c'est absolument dans la mémoire. Hein. C'est bien pour ça qu'ils essayent d'étouffer dans l'œuf dès qu'il y a une tentative de mobilisation sur ce terrain-là. Hein. Ils veulent pas reproduire ce calvaire pour eux, d'occupation massive, de retour de la question du logement sur la scène publique, un peu plus largement que parler de plafonnement des loyers.
Mmh. Et puis surtout, il y avait eu des engagements, il y a Duflot aussi qui est... sur une partie de l'arrondissement, il y a eu des engagements et il n'y a rien de fait, il n'y a rien du tout qui avance sur la question du logement, quoi. Ça devient ça devient de plus en plus hard, quoi.
Non, mais en fait, dans le 20e, Calandra, qui, alors, elle était strauss-kahnienne. Je ne sais pas si on peut être encore strauss-kahnien maintenant, mais elle a une politique vachement. Ouais. Peut-être pas ultra sécuritaire, mais très sécuritaire, qui consiste à avoir mis en place la brigade de surveillance du territoire, qui est une brigade de police inter-arrondissement sur les grands axes, et qui a pour but principal d'attaquer, de gazer des biffins, des roms qui revendent un peu à la sauvette des objets trouvés dans la rue. Elle a récemment, il y a un mois, elle a mis en place la ZSP, zone de sécurité prioritaire du 20e arrondissement, qui se situe sur le quartier Saint-Blaise, qui est un gros quartier de Tours, avec pas mal d'HLM, mais pas que. Elle a participé, elle avait participé à une manifestation organisée par les petits commerçants de la rue des Couronnes et l'extrême droite contre les Roms. Voilà, où on a eu un superbe discours de son adjoint qui a cité les communards en disant qu'on chassait la misère le fusil à la main. En l'occurrence, c'était le flashball. Voilà, on a un PS bien porté sur cette question de sécurité. On a aussi les brigades de HLM, là, le GPIF, groupement inter-bailleurs de sécurité, un truc comme ça, qui fait des espèces de tournées en bas des HLM pour emmerder les jeunes qui fumeraient des clopes à la sortie, des trucs du genre. Voilà, on a une PS qui est bien portée là-dessus, quoi, et qui aime bien l'ordre et la discipline.
Mais pourtant, le 20e, c'est un quartier quand même relativement peinard, quoi.
Bah ouais.
Enfin, de notoriété publique, il y a effectivement un peu de trafic et d'économie parallèle, mais où est-ce qu'il n'y en a pas, qui ont abouti à ce qu'il y a un mec qui s'est fait flinguer sur une terrasse de café. Mais tu sais très bien que tu peux aller boire des coups dans les rues, il y a toujours des gens, tard le soir, c'est pas là que tu te fais agresser, quoi, c'est clair.
Non, c'est super tranquille, hein, le 20e.
Et alors comment, quel est le problème aussi, c'est que, et c'est un avantage mais aussi un inconvénient, c'est que dans le 20e arrondissement, il y a tout un fichu réseau et un maillage associatif et politique, quoi.
Ouais.
Il y a énormément d'associations, d'amicales, de groupes, etc., etc. Ce qui fait que les gens ont une vie sociale et associative et interviennent, mais qui quelque part peut être aussi un frein par rapport à l'auto-organisation des gens pour se mettre en lutte, quoi. Je sais pas.
Ouais, bah en fait, toutes les expériences associatives sont différentes, et c'est vrai qu'il y en a eu qui étaient plus chouettes que d'autres. Je pense par exemple à qui ressemblait plus à de l'auto-organisation, effectivement, qui était une expérience sur un terrain abandonné à Saint-Blaise, avec les gamins du quartier, où les gamins ont construit, en fait, c'était leur terrain de vie, de jeu, d'organisation. Et c'est une asso qui s'est fait un peu tuer par la mairie, quoi. Enfin, tuer en mode, on coupe les financements et on les file à une asso copine. Une asso avec des gens qui sont proches de la mairie.
D'accord. Ouais.
Enfin voilà, il y a plein de tout un tas de pratiques qui sont mises en œuvre pour essayer de canaliser les associations.
Et encadrer.
En tout cas, celles qui seraient un peu trop
subversives.
Quoi?
Subversives, je dirais.
Ouais, subversives. Ouais.
Mais c'est ça. Et puis d'un autre côté, encadrer la population et lui instaurer une relation. À la revendication qui passe par des canaux qui sont bien identifiés et qui sont toujours les mêmes et qui sont maîtrisés, quoi. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose ou quand tu as besoin de quelque chose, tu passes par un chemin, tu te sers pas toi-même. Faut pas. De toute façon, après, les pauvres aussi commencent à se servir. On sait ce qu'ils en font, quoi, hein, des immeubles et tout ça, quoi. Et du coup, la revendication du collectif de la cantine, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une envie de continuer? Est-ce qu'il y a une tentative de se pérenniser? Ou il y a une envie de résister, de défendre le lieu?
Ah oui, ben... Notre revendication, c'est le relogement. à eux de voir comment. c'est pas notre problème. Le relogement aussi des habitants, parce qu'il y a quelques habitants des gens en galère qui habitent.
Quatre, hein, c'est ça. Hein.
Ouais.
Et une fois de plus, faut quand même dire que ce lieu-là, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui disent, t'as les mecs qui sont pas chiés, sont rentrés dans un bar. Non, non, on a viré personne. Hein. c'est pas, on est rentré dans un bar, on a viré les gens et on s'est acquis. C'est un truc qui était, je crois, inoccupé, qui avait été coulé et qui était inoccupé depuis au moins 20 mois, si je ne m'abuse. C'est ça?
Ouais, je me rappelle.
Ouais, c'est ça. Deux ans et demi même, je crois. Et il y avait quatre logements en haut, quoi. Quatre pioles. Mmh.
C'est
des plus d'hôtels,
ouais.
Quoi. Donc ça veut dire que des logements, il y en a. Il y en a. Des logements, il y en a partout. Vous vous baladez dans le 20e arrondissement, mais vous baladez partout. Vous voyez des tonnes d'immeubles qui sont vides, quoi.
Oui, tonnes peut-être pas, mais ouais, il y en a un certain nombre en tout cas.
Ouais, je pense qu'on parle de centaines de milliers de mètres carrés habitables à Paris. Hein.
Ouais, ouais.
Donc voilà quoi. Pardon, je t'ai interrompu sur la poursuite et les revendications du collectif de la cantine.
Oui, écoute, c'est ça, hein, c'est la volonté de continuer, de trouver un lieu pérenne, un lieu pérenne, ça veut dire, en tout cas, de continuer, de trouver un lieu. Et ça veut dire que ce soit donné par la mairie ou qu'on soit obligé de refaire la même, quoi.
D'accord, enfin, c'est une promesse,
c'est une menace,
d'accord.
Non, on va continuer, donc on trouvera un lieu s'il est gracieusement prêté, tant mieux. Ça permettra d'être assez fixe dans le temps. Mais si on l'a pas, on sait comment faire, quoi.
c'est vrai, ça me rappelle un dicton, si c'est à pas de niche, prends un pied de biche, quoi. Que du coup, alors, puisque tout à l'heure tu c'était un peu tôt, mais là je pense que après une demi-heure on peut peut-être essayer de commencer à faire un bilan, quoi. Qu'est-ce que tu retires, toi, à titre, je dirais, personnel, collectif et politique de cette année, quoi.
Écoute, c'est vraiment pas évident de faire un bilan. Nous-mêmes, on n'a pas vraiment réussi à le faire.
Pourquoi tout le temps le nez dans le guidon?
Ouais, exactement. Et le bilan, enfin, un bilan, ça pourrait être que... Enfin, en fait, il y a plein de points positifs, négatifs, et il faut voir quels sont, qu'est-ce qu'il en sort, quoi. Et c'est vrai que on a plein de moments où on s'est dit, ah, c'est vraiment trop chouette ça, et d'autres moments beaucoup plus pessimistes, où on se demandait où on allait. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que ça prend du temps. C'est que non, mais en fait, on a essayé de faire un bilan au bout de 6 mois, et presque tout était négatif. Ça allait pas, rien n'allait, l'organisation, qui passait, ce qui s'y passait, enfin, rien n'allait. Et finalement, 6 mois après, en fait, on fait, ah ouais, mais en fait, ça va plutôt bien, ça marche bien quand même comme truc. C'est plutôt pas mal. Et du coup, ouais, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, faut pas croire, tu débarques et même si t'as une bonne idée, des pratiques intéressantes, que tout va se passer comme ça. C'est, ça prend du temps à connaître les gens, à ce que les gens prennent confiance en toi, en eux, en tout ça, se lancent, participent. Fasse des choses, quoi. Et puis, bah écoute, c'était un peu la manifestation d'hier. T'as vu, il y avait quand même un certain nombre de gens qui avaient pas du tout l'habitude de manifester, quoi. De gens qui étaient pas du tout là-dedans et qui sont descendus, qui sont venus, qui... Voilà, c'est une forme de... d'approche un peu politique.
Moi, je crois que c'est intéressant parce que vous avez jamais été, enfin, je dis vous, mais je m'inclus dedans, mais vous avez jamais été avare et malhonnête sur vos intentions, c'est-à-dire que à chaque fois dans la présentation de votre démarche et de vos pratiques, il y a des mots qui sont clairement identifiés, identifiables, quoi. Vous parlez de communisme, vous parlez de la nécessité C'est vrai. Moi, je me semblait que il y avait quand même des choses qui étaient nommées, quoi.
On l'a pas dit comme ça.
Le
Parti communiste français dans le 20e arrondissement est assez fort. Et
oui, vous l'avez pas.
Il vaut mieux prendre mettre des limites avec eux.
Non, pardon, t'as raison. Le terme est pas forcément adéquat, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez jamais caché votre démarche politique, quoi.
Non, bien sûr que non. On a revendiqué le fait de prendre ce lieu, de dire qu'on n'avait aucun souci avec ça, que vraiment on n'avait aucun remords, que notre démarche c'était une démarche pour la lutte, pour les luttes, contre les rapports capitalistes, contre... pas du tout dans une visée électorale ou je sais pas de monter je sais pas le parti ou je sais pas quoi, pas du tout non plus de dire que c'est très bien, on pourrait vivre comme ça, on pourrait faire des AMAP et manger sympa et que ça pourrait s'arranger, et puis comme on a des copains qui sont chez les Verts, tout irait mieux. Non, c'était de dire que non, on pense pas que ce soit une alternative, quoi. C'est une manière de s'organiser qui a ses faiblesses, hein, mais qui n'est pas un but en soi, qui essaie d'élaborer un peu des perspectives combatives. Voilà.
Ouais, je pense que s'il y a aussi un bilan qui peut être fait, c'est pas forcément sur l'action elle-même, mais sur les gens qui ont porté cette action. Je crois que moi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont décantées au cours de ces 3 années qui se sont écoulées. La possibilité de travailler ensemble, même si on ne vit pas ensemble ou on dépasse justement cette capacité, ce rempart de l'organisation ou du groupe pour faire des choses ensemble, pour intervenir politiquement ensemble sur un espace géographique qui est délimité et déterminé et qui permet d'avoir une résonance, quoi, et donc du coup d'accumuler vraiment des forces au fur et à mesure, quoi, et d'avoir une pratique qui soit en rupture et en même temps qui soit subversive mais tangible, réelle, quoi, qu'on puisse mesurer, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un enseignement qu'on doit retenir individuellement et collectivement, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
Tu
signes. Écoute, je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, peut-être. Quelque chose qu'on aurait oublié. Non.
Je vois pas comme ça.
Bon, de toute façon.
Certainement.
Oui, je pense aussi également. De toute façon, on va continuer à suivre cette histoire, hein, puisque on y est aussi un peu lié, quoi. Et moi, je te remercie d'avoir été disponible ce soir, quoi. Raccroche pas, je te reprends au téléphone.
Pardon ?
Je te reprends au téléphone, ne raccroche pas.
Ok.
drowning. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. My rose on me got drowning.
Alors, bon, il nous reste 10 minutes, donc on avait prévu éventuellement de vous diffuser un extrait du documentaire Les femmes du mont Ararat, un documentaire d'Erwan Briand qui est un magnifique documentaire sur des groupes de femmes dans la lutte armée kurde, dans la lutte armée du PKK. Bon, malheureusement, on va être un peu juste, je pense, on le passera la semaine prochaine. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, puisque effectivement, vous savez que samedi, c'était la journée internationale des droits des femmes, hein, mais les luttes ne durent pas que 24 heures et les droits c'est pas que pendant 24 heures, donc on aura l'occasion d'en reparler avec cette expérience assez incroyable et assez originale de ces groupes non mixtes de femmes dans l'armée du PKK, qui s'appelle plus PKK mais en tous les cas dans l'armée des combattants kurdes. On va revenir un peu sur une précédente émission, puisque on avait eu une émission sur la Redoute, et c'est en train de bouger là-haut. Ça commence à prendre tout doucement, puisque aujourd'hui était le dernier jour pour les négociations, c'est-à-dire que les employeurs avaient mis un ultimatum au syndicat qui se terminait donc aujourd'hui pour pouvoir accepter le plan qu'ils proposaient et qui aboutissait d'une part à des suppressions de postes et d'autre part à des indemnités qui étaient vraiment le minimum le minimum du minimum, une misère, comme le disaient eux-mêmes les salariés de la Redoute. Et alors, non seulement, donc là, bon, vous avez peut-être entendu à la radio, on en a parlé, que ces salauds de salariés, qui sont pas des salauds de pauvres, mais qui sont quand même des salauds de salariés, avaient refusé avait refusé les conditions assez incroyables qui étaient offertes par Kering et la Redoute, à savoir la possibilité de départ en retraite dans pré-retraite à partir de 55 et de 2014 jusqu'à 2017 la possibilité de partir encore en pré-retraite. Donc il y avait une grosse communication qui avait été faite là-dessus, à dire que en plus que le coût de ce plan avoisinait les 200 millions d'euros et que c'était vraiment une somme assez incroyable, c'était le budget de la ville de Strasbourg, et que donc effectivement on comprenait pas pourquoi les salariés de la Redoute refusaient les conditions exceptionnelles qui étaient offertes par leur employeur. Bon, à noter que 200 millions, hein, pour un groupe comme Kering, c'est vraiment pas grand chose, puisque là, en une semaine, vous savez, le PDG de Kering, c'est Pinault, et Pinault, il est propriétaire du Stade Rennais. Il aime bien le foufoute, hein, chacun sa danseuse, hein, certains c'est un journal, d'autres un club de football. Et là, en une semaine, pendant le mercato, c'est-à-dire les périodes d'achat et de vente des joueurs, il a déjà dépensé un peu plus de 12 millions d'euros, hein, pour 3 personnes. Donc, bon, bah, il y a un sens des priorités, effectivement, hein, et il y a tous les retraités et tous les salariés, visiblement, ne se valent pas. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que les moments de lutte et les moments de mobilisation des salariés de la Redoute se rapprochent de plus en plus et ont tendance à augmenter, à commencer à devenir tangible. Ainsi, la semaine dernière, il y a eu un peu plus de 400 salariés sur 1700, hein, qui ont manifesté dans Roubaix et qui ont bloqué la voie rapide de Tourcoing, distribué des tracts, commencé à faire de l'agitation et commencé à poser des revendications qui sont, si possible, atteignables, en tous les cas, qui permettent d'avoir des repères pour pouvoir se mobiliser et revendiquer. Ces revendications, elles sont assez claires, hein. C'est ce que nous disait Ali il y a 15 jours. Du fric, du pognon, c'est-à-dire que les salariés demandent 40 000 euros de prime de départ, plus 1 500 euros par année d'ancienneté et 36 mois de congé reclassement. Alors, au départ, on n'était que sur les indemnités légales, hein. Et là, après une semaine de négociation, le groupe Kering s'arrête à 15 000 euros. Donc, voilà, il faut encore insister un peu plus et ça va monter, quoi. Par contre, ce qui est clair, c'est que il va y avoir un gros chantage de fait par la direction. Aujourd'hui, ce dernier jour, il y a une nouvelle mobilisation, puisque alors que la dernière réunion de négociation devait avoir lieu, tous les sites de la Redoute à Roubaix, notamment le site de la Martinoire, a été bloqué toute la journée. Les gens ont pu véritablement commencer à mettre le rapport de force pendant la négociation. Et voilà, hein, je suis en train de lire mes notes, et effectivement, ça commence. On avait commencé la matinée avait commencé à 10 000 euros, puis 12 000, puis 14 000, pour terminer à 15 000 euros d'indemnité plancher pour les départs volontaires. Et ça commence à monter, et on suivra le truc. On espère qu'ils pourront continuer à se mobiliser comme ça et éventuellement obtenir leur dû.
Alors, faut savoir qu'à côté de la Redoute, toujours dans le même combat, puisque l'un des repreneurs de la Redoute, c'est aussi le patron de Relais Colis, qui a une antenne sur Vitry des Reims, et donc qui vont être complètement restructurés aussi, puisque il y a au moins 3 sites en France de Relais Colis je sais plus dans quel sens ça marche.
Je crois que c'est Relais Colis, ouais.
Et qui vont disparaître, dont celui de Vitry-les-Reims. Et donc, Vitry-les-Reims employait 15 salariés sur les autres sites, je sais pas exactement, qu'il y a aussi une grosse bagarre et que, apparemment, ils travaillent main dans la main avec les employés de la Redoute, parce que eux, quand ils se mettent en grève, quand ceux de la Redoute n'y sont pas, ils essayent de faire en sorte que chacun prenne le relais de ce que fait l'autre. Voilà.
Ok, ben ouais, c'est vraiment à suivre, parce que malheureusement, espérons que le mouvement là qui semble embryonnaire mais qui est en train de naître a pas commencé trop tard. En tous les cas, c'est pas grave, hein, on peut toujours perdre, mais si on se bagarre pas, on est sûr déjà d'avoir déjà perdu, quoi. Donc on verra ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la stratégie du chantage avancée par la direction a pas du tout fonctionné, et bien au contraire, comme disait un des syndicalistes de la Redoute, quand on nous dit chantage, on répond mobilisation, et c'est la meilleure réponse qu'il pouvait apporter.
Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche.
Je propose
que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment,
monsieur,
comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, si vous étiez à Toulouse, sur Canal Sud, à Montpellier, sur l'écho des Garrigues, ou bien même à Reims, sur Radio Primitive, vous étiez à l'écoute de l'Égrégore. L'Égrégore, une parole anarchiste communiste que vous pouvez retrouver tous les jours, le jour, la nuit, dans votre...